Et on commence ce journal avec la confirmation que la comète Borisov est bel et bien une comète interstellaire.
Après l'astéroïde Oumuamua en 2017, c'est le deuxième objet interstellaire détecté dans notre système solaire. L'Ukrainien Gennady Borisov a découvert cet objet le 30 août dernier. Dès les premières images réalisées par l'observatoire Gemini à Hawaï, on distingue derrière lui un léger halo, ce qu'on appelle une coma, qui indique qu'il y a un dégazage, ce qui différencie une comète d'un astéroïde. C'est en mesurant la vitesse de cet objet et l'excentricité de son orbite qu'on a pu s'assurer qu'il ne provenait pas de notre système solaire. Hier, le Centre des planètes mineures l'a officiellement baptisé 2I Borisov, I pour interstellaire. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose d'elle. Elle sera au plus proche de la Terre le 8 décembre prochain, à environ 300 millions de kilomètres de nous. On en saura alors plus sur sa composition, sur sa taille et surtout sur ses origines. Francis Rocard est astrophysicien au CNES et responsable des programmes d'exploration spatiale.
On a pu déterminer sa vitesse, qui est absolument gigantesque. On est à 41 km par seconde et donc on peut en déduire assez vite l'excentricité de son orbite. Vous savez que l'excentricité, c'est le critère numéro un pour savoir si l'objet est lié au Soleil. Et là, le Borisov a une excentricité non pas de 1, quelque chose, mais de 3,2, je crois. Et donc, nous avons affaire à la première comète interstellaire. C'est effectivement tout l'intérêt de l'objet, c'est que si cet objet est interstellaire, on peut penser qu'il n'a jamais pris le chaud, il n'est jamais passé près d'une étoile, et donc on a affaire à une première activité. Or, la première activité d'une comète, c'est quelque chose qu'on ne voit à peu près jamais, qui est rarissime, et donc c'est extrêmement intéressant, parce que c'est évidemment les molécules les plus volatiles qui vont s'extraire dans la coma les premières. Alors, c'est très important puisque les comètes sont constituées probablement d'à peu près un tiers de glace, essentiellement de l'eau, mais pas seulement, un tiers de matière organique réfractaire et un tiers de roches de type silicate. Et si ces objets ont un tiers de glace, c'est que ces objets ont jamais chauffé. Et donc, ils sont pratiquement inchangés depuis leur formation il y a 4,5 milliards d'années. Donc on peut dire que les comètes sont a priori les objets les plus primitifs du système solaire, en général plus primitifs encore que les astéroïdes.
Et on passe au bref du jour. Le GIEC a publié ce matin son rapport sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les océans. La montée du niveau des mers s'accélère, Natacha.
L'une des causes principales, c'est la fonte des glaciers. Une fonte qui a doublé ces 20 dernières années, voire triplé pour l'Antarctique. Si rien n'est fait, le niveau des mers pourrait augmenter de 1,10 m d'ici 2100. De plus, les océans continuent de se réchauffer, ce qui provoque leur dilatation et donc une hausse du niveau des mers supplémentaire. Et la hausse des températures entraîne aussi une diminution de leur concentration en oxygène et une acidification des eaux aux conséquences désastreuses pour les écosystèmes marins. Selon ce rapport, 15% de la biomasse marine pourrait disparaître ces prochaines décennies.
Une équipe internationale a découvert un nouveau minéral en Afrique du Sud, la goldschmittite.
Ce nouveau minéral est incrusté au centre d'un diamant, un diamant qui provient d'un site volcanique et qui s'est formé à plus de 170 km de profondeur sous une température de plus de 1000 degrés. Sa signature chimique ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. À cette profondeur, celle du manteau terrestre, les roches peuvent incorporer dans leur structure d'autres minéraux. Son analyse peut aider à mieux comprendre les processus chimiques, encore mal connus, qui se déroulent dans la croûte terrestre. Les détails de cette découverte sont à retrouver dans la revue American Mineralogist.
Et comme d'habitude, on vous met les liens vers les études et les articles cités sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Pour finir ce journal, Natacha, selon une étude parue dans The Journal of Medical Microbiology, le thé vert est un composant efficace pour lutter contre l'antibiorésistance.
La superbactérie, la Pseudomonas aeruginosa, a développé des résistances multiples aux antibiotiques, au point d'être considérée comme une menace grave par l'Organisation Mondiale de la Santé. Une équipe britannique a testé cette bactérie en laboratoire avec différents traitements. On constate que l'Astreonam, un antibiotique classique, est beaucoup plus efficace contre cette bactérie quand il est associé au polyphénol, le composant naturel du thé vert. Le polyphénol est un antioxydant et selon les chercheurs, cela expliquerait pourquoi il permet de restaurer l'efficacité de l'antibiotique.